et de reconnaître que ça existe. Il faut commencer par reconnaître que ça existe. Si vous ne reconnaissez pas ce que ça existe, et quelle est la raison, vous n'arriverez jamais, vous allez foncer dans le mur. Si vous attaquez un fantasme de front, vous n'arriverez jamais à en sortir. C'est ce que nous faisons, justement. On est là avec des grands mots terroristes. Au lieu d'essayer de piger le problème et de voir que finalement il n'est pas sans raison, et ben non, on fonce dedans. Il y a les méchants, il y a les bons. Bon. C'est malheureux pour les méchants, parce qu'en plus, ça se reproduit plus facilement que les choses bonnes, à cause du surmoi. Parce que si on reconnaît, on n'a plus de surmoi déjà. La culpabilité, c'est la non-reconnaissance. Donc, Lévi-Strauss, voyez-vous, dans ses histoires de répétition, il n'a pas trouvé la raison, mais il a fait un discours qui a dit à l'UNESCO, il a dit, il y a quelque chose d'important, c'est que c'est le langage qui produit cette opposition, cette différence et cette identité dans le phonème. C'est le langage qui, en tombant dans le monde au travers du corps de cette espèce que nous sommes, hein, puisque ça nous permet de survivre, ça nous permet de faire des dons, comme un poumon d'acier, et bien voilà, ce langage, c'est ça qui fait la différence. S'il n'y avait pas le langage, vous n'auriez pas d'hybridation des céréales, pas de race d'animaux, pas de race d'hommes. Les races, ça s'appelle race et histoire. Hein. Je vous dis, le langage, il trace des sillons dans le monde, il différencie, il sépare. Il fait des différences qu'on n'arrive pas à comprendre.
C'est race et culture.
Il y en a un qui s'appelle... Ah oui, le premier, c'est race et culture, et le deuxième, c'est race et histoire. Vous avez raison. Alors, justement, parce que le deuxième est important, vous allez voir. Donc, race et culture, le premier, il dit, voilà, il y a de la différence, et c'est pour ça qu'il y a des races. Du coup, l'UNESCO, les employés de l'UNESCO, ils étaient ravis. Ils ont pu bosser pendant 10 ans avec les arguments de Lévi-Strauss pour lutter contre le nationalisme, hein, le racisme. Bon, ils ont un argument de raison. Il faut reconnaître que ça existe, mais c'est pas une raison de tolérer qu'on en devienne fou. C'est-à-dire qu'on fasse n'importe quoi et qu'on prétende des justifications pour faire ce qui nous plaît. Enfin, ce qu'on croit qui nous plaît, parce que je suis pas sûr que ça nous plaît. La marionnette, elle est complètement manipulée par cette structure. Donc voilà. Et 10 ans après, ils remettent ça à l'UNESCO. Ils vont faire un jubilé à Lévi-Strauss. Et Lévi-Strauss, il fait un discours la deuxième fois, donc c'est celui-là qui s'appelle « Race et histoire ». Et là, il vient, alors... Ça se passe comme ça, il y a le directeur de l'UNESCO, il a lu le texte de Lévi-Strauss avant le discours parlé. Et alors il demande à prendre la parole avant de laisser parler Lévi-Strauss. Et il dit à son personnel, bon mais écoutez, n'écoutez pas. C'est de là qu'est venu le mythe de Lévi-Strauss réac, parce qu'à la même époque il est rentré à l'Académie française. Voyez. Moi je me souviens, je me souviens avoir vu Jolin, Robert Jolin, qui est un type charmant, mais qui était agacé comme ethnologue par Lévi-Strauss, parce que Lévi-Strauss dans son bureau, Jolin, lui, il avait fait la mort Sarah, initiation, vous voyez, bon, il a fait un livre, hein, bon, il est sympa, Jolin, mais pas Jolin, c'est des gens formidables, mais le problème, c'est que ça l'agaçait un peu, donc il dit, oh là là, quel enterrement de première classe, la famille française, maintenant l'UNESCO. Donc tout le monde a commencé à dire que Lévi-Strauss était devenu réac. Non, Lévi-Strauss, il est maladroit. Au lieu d'entretenir sa clientèle, il avait un succès fou auprès des personnels de l'UNESCO, au lieu de leur passer la main dans le dos, dans le sens des poils, là, pour qu'ils soient contents, il vient leur dire, il y a des particularismes ethnographiques. C'est ça, race et histoire. Il y a des particularismes ethnographiques. Vous voyez, la différence, c'est banal. La différence, c'est le langage, c'est banal. Mais il y a des exceptions qui sont des différences ethnographiques. Il y a des différences qui sont exceptionnelles. Ben, il avait découvert le nom du père, mais il le dit en deux temps, mais maladroitement. Et du coup, il se fait haïr, et comme nous. D'ailleurs, il y a des gens qui parleront mal de moi, parce que je fais de la même chose, je suis aussi maladroit que Lévi-Strauss, et je suis très content, parce que je trouve que c'est bien mieux d'être maladroit que d'être adroit. Parce que quand on est adroit, on finit un peu à être adroit. Bon, mais on est, bon, c'est-à-dire un peu canaille. Bon, moi, je ne sais pas si je veux être débile de gauche, mais je trouve que ma famille, c'est plutôt les gens généreux, sympathiques et maladroits. Alors, donc, Lévi-Strauss, c'est un génie et un type courageux, vous voyez. C'est un type qui, pour dire quelque chose, il court le risque de perdre le crédit qu'il a et il le fait. Donc, moi, je pense qu'il faut rendre hommage à des choses de cette manière, pas dire qu'il était ceci ou cela. Bon. C'est une tactique géniale et courageuse. Bon. Je trouve que c'est très bien. Lacan, lui, il est aussi génial, génial. Il est terrible parce que c'est un stratège effrayant, puisque lui, il commence à dire à ses propres élèves, à ce qu'il en reste, aux nouveaux qui sont arrivés, parce que ça a changé le personnel du séminaire, au cours des années, la preuve. Moi, j'ai connu que les 9 dernières. J'ai lu les précédentes dans les années 80. Fin des 70, je comprenais rien à Lacan, non, encore. Je comprenais des petits trucs comme ça, avec sourire, mais pas plus. Bon, donc, Lacan, il dit, je ne vais pas vous faire les noms du père, mais je vais vous indiquer tout ce qu'il faut pour retrouver ce que c'est, pour arriver à vous en débrouiller. Mais je ne le donne pas parce que les vieux, là, tous les racis, cette espèce tellement mauvaise, nous sommes tellement mauvais, n'est-ce pas, méchants, bon, et bêtes, que je ne vais pas le donner, mais il y en a qui le trouveront plus tard. Et puis ceux de maintenant, là, je suis sûr qu'ils ne sont pas capables de trouver eux-mêmes. Il l'écrit explicitement dans un truc qui s'appelle La raison d'un échec. Il dit, ça, je suis sûr qu'ils ne le trouveront pas eux-mêmes, parce que, alors je me suis posé la question, moi, parce que j'en connais un certain nombre, des gens plus vieux que moi, dans l'analyse, à Paris, en langue française, c'est des lacaniens. Moi, j'ai tendance à plutôt... Je ne suis pas en fraternel. Peut-être qu'en vieillissant, je deviens plus sage. Je commence effectivement à trouver qu'ils sont vraiment très, 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 très comiques et couillons. Bon, mais enfin, le transfert, ça fait ça. Ils disent tellement peu de choses que peut-être on commence par croire, avant de pouvoir finir par s'apercevoir qu'ils n'ont rien à dire, qu'on croit qu'ils ont quelque chose à dire. C'est très différent hein, de voir quelqu'un, vous savez, de rencontrer quelqu'un dans la salle d'attente du cabinet de consultation de Lacan, puis quelques années après, de l'entendre parler avec lui. C'est vrai, le transfert, ça marche. Ça marche toujours. Le supposé savoir de l'autre qui fait qu'on ne va pas lui dire et qu'on va passer des années à ne pas lui dire un truc parce qu'on est sûr qu'il doit l'avoir compris, vous voyez. Puisque ça doit être écrit, il le sait déjà. Donc s'il le sait, j'ai pas la peine que je lui dise. Et comme ça, on perd des années. Donc c'est très intéressant quand même d'apprendre que la psychanalyse, c'est qu'on parle pour s'apercevoir qu'il y a des choses qu'on ne dit pas. Hein, il faudrait commencer par là pour pouvoir commencer à avoir des praticiens analysants qui viennent effectivement analysants, qui sont plus intéressés à dire des trucs pour voir qu'est-ce qu'ils disent pas que de croire que ce qu'ils disent est intéressant, ce qui amène certains même à en faire une plainte pour la rendre encore plus intéressante, ça devient vraiment sordide. Le fait divers familial, hein, papa, maman, c'est une horreur, et ça donne rien. Alors que si on s'intéresse à ce qu'on ne dit pas, se rendre compte, ce qu'il faut, c'est voir, c'est justement, pourquoi dans le transfert, il y a ce lien de la répétition. Il y a quelque chose que je ne dirai pas à mon analyste, parce que il le contient déjà. Il le sait, ça c'est le sujet supposé savoir. C'est l'interprétation, vous voyez, du lien de la répétition. Alors, quelle est l'étape des 4 étapes que vous voulez que je calcule? Parce que voilà, il y a 2 étapes, celle-ci, hein, et celle-ci, qui sont 2 étapes bien distinctes si vous prenez l'objet physique et les disques qui se superposent, qui glissent comme ça, ils sont séparés côte à côte, il y a une intersection, puis les trous rentrent dans l'intersection, deviennent colorés. Ça, c'est l'étape de la répétition. Ça, c'est la séparation. Ce que Lacan appelle séparation. L'aliénation, c'est le trou. La séparation, c'est ce passage, cette modification de l'intersection. Ça, c'est la séparation. Et dans la séparation, vous avez le lien de répétition qui est défini par la répétition, par la séparation. Donc ça, c'est l'étape de la séparation. Il ne faut pas brûler les étapes, sinon vous n'y arriverez jamais. Si vous voulez aller trop vite. Il ne faut pas muser en chemin, mais il ne faut quand même pas être trop vite. Il ne faut pas être excessivement excité. Il faut se retenir un peu. La séparation, ça va nous permettre de traiter la répétition, entre guillemets. Hein? Et ça, c'est vraiment la clinique. Je vous dis, un sujet anorexique, c'est comme l'enfant qui est jaloux parce qu'on donne le sein à son petit frère. C'est un lien avec l'objet que le sujet ne peut pas expliquer, mais qui est absolu, qui est total, qui n'est pas total. Total, c'est pas bien, on retombe dans la demande, dans l'imaginaire, dans la maîtrise. Non, il est absolu, ça veut dire il est séparé. Absolu, ça veut dire séparé. C'est l'histoire du saint et des reliques. Du saint, du saint homme et des reliques. Peter Brown, lisez Peter Brown là-dessus. Hein, je vous ai déjà dit, Peter Brown, il dit des choses vachement intéressantes sur les possédés du diable. Vous savez, il raconte ça dans son article sur Grégoire de Tours. Les possédés du diable, c'est des gens vachement bien, les possédés. Il faut les garder, il ne faut pas tous les traiter, là. On en voit l'exorciseur. Il ne faut pas trop les exorciser, les possédés. Parce que, vous savez, c'est très pratique, le possédé, parce que quand vient une relique en Europe, quand on vous annonce qu'il y a une relique qui est en train de voyager, puis qui va passer par chez vous, pour qu'on fasse une petite cérémonie pour adorer les reliques, hein, et ben, le possédé du démon, c'est un résonateur à reliques vrai. C'est-à-dire que si c'est une bonne relique, il se met en état d'épilepsie. Si les possédés du village ne se bougent pas, c'est du toc. Grégoire de Tours, vous voyez, il réfléchissait déjà, ils ne sont pas plus cons que nous, hein, au Moyen-Âge. Enfin là, ce n'est pas le Moyen-Âge, c'est l'Antiquité tardive. Hein. Mais moi, je trouve ça très joli, moi, ces possédés du diable qui sont des résonateurs pour garantir, pour estampiller les reliques véritables, authentiques. Bon, j'adore ça, si vous voulez, je pense qu'il faudrait des trucs comme ça
Oui, il y avait un coup pas mal, c'est que pour savoir si c'était un morceau d'un vrai croix, on mettait dans le feu.
Ah, oui, oui.
Il y avait un Italien, il avait inventé un procédé ineffugeant.
Oui, oui, oui.
Donc
oui.
Il faisait de vieilles croix.
Vous venez de ça, vous venez de ça, c'est ineffugeant, mais. Bon. Mais oui, mais regardez, moi c'est pas l'aspect technologique qui m'intéresse, c'est l'aspect discursif.
Oui, oui.
Bon, faites attention, regardez bien. Le coup du test. Pour voir si une sorcière est vraiment une sorcière, vous savez comment on fait. On la met dans un sac à patates avec une grosse corde pour fermer, puis on jette ça dans l'eau. Si elle coule, c'est que c'était pas une sorcière. Si elle flotte, c'était une sorcière, alors on la brûle. Et si elle coule, elle est déjà morte. C'est vachement bien comme procédé. C'est-à-dire qu'on ne court pas de risque. Vous voyez, c'est des gens, ils ont étudié la théorie des jeux. Ils ont les martingales, vous voyez, ils gagnent à tous les coups. La découverte des sorcières, c'est vachement bien. C'est un moyen de gagner à tous les coups. Bon. Donc nous, on a attendu von Neumann et Mangelstein pour nous apprendre comment il fallait faire. Et c'est amusant. Donc voilà, vous voyez, l'aspect discursif, c'est ça qui est intéressant. Bon, donc les reliques, les symptômes. Bon, ça, le psychanalyste, il a quelque chose à voir avec le symptôme et les reliques. Hein, l'objet A. Bon, Lacan, il pose là-dessus, hein, dans son symptôme. Mais il ne faut pas aller trop vite à comprendre trop vite. Hein. Alors maintenant... Ces deux-là, ça donne le schéma I. Et ça, ça donne le schéma R. Bon, alors, vous voyez bien que ce sont deux étapes avec les disques en plastique que vous ne pouvez pas avoir en même temps. Ou les deux disques sont une intersection et les trous ne sont pas dans l'intersection, ou bien vous les rapprochez tellement qu'ils se superposent, ils deviennent les deux cercles de chacun, deviennent concentriques. Et là, c'est l'intersection qui occupe toute la place, la superposition du bleu, du vert et du rouge, et les deux trous sont superposés. Bon.
Moi, j'ai appelé ça alpha, bêta, delta et phi. Parce que ici, j'ai retiré là, et là, j'ai retiré des étapes encore intermédiaires pour faire plus court.
Ah oui, alors ceux qui veulent avoir le texte qui correspond à l'explication de ces choses-là, sur ce tableau-là, il faut qu'ils m'écrivent un mail vide. Hein, je leur enverrai le texte qui, où il y a toutes ces figures et tous ces calculs. Et nous travaillons avec quatre feuilles qui sont les quatre domaines dans ce dessin-là, qui est un diagramme de Lerven, les quatre domaines qui correspondent à ces quatre étapes. Mais ce qui est important, c'est comment écrire cette feuille-là. Ça, je crois que c'est... Je l'ai expliqué la dernière fois rapidement, et c'est ça qui est le plus difficile pour tout le monde, c'est ça qu'il faut expliquer bien. Comment on peut linéariser le diagramme de Lerven en termes de quatre lettres. Soit tout en termes de S et de A, donc il faut mettre du S plus 1, du A plus 1, et les coefficients ce sont petit A prime, A prime plus 1, A plus 1, ou bien le contraire, on exprime tout en fonction de A prime et A, et les coefficients, c'est en termes de S et A. C'est ça mes deux tableaux. Parce que je vous ai fait remarquer, le truc que vous, vous remarquiez, c'est que dans ce schéma, contrairement au, au modèle physique, dans ce diagramme, ça c'est un diagramme, et c'est ce diagramme qu'on va retrouver sans, ce, sans cette différence entre le schéma, disons la figure de géométrie qui représente peut-être des objets éventuels phénoménaux, des modèles physiques. Hein. Entre ces objets et ces diagrammes, vous avez là le programme de ce que fait la science. Hein. Elle va filtrer les phénomènes au travers d'une écriture, et ça va vous produire quoi ? Ben, plus du feu de bois, mais comme au néolithique, mais de l'électricité. Hein. C'est pas l'électricité qu'on fabrique avec une turbine et tout ça, c'est un texte. Et avec de l'eau, une chute d'eau, vous pouvez mettre votre main dans la chute d'eau, vous verrez. Les mecs, ils croient encore que l'énergie, c'est autre chose qu'une lettre. Hein. Quand on met les... Ils croient que l'énergie, c'est quand on met les doigts dans la prise électrique parce que ça fait une étincelle et puis on reçoit un coup de jus. Bon, c'est électrocuté. C'est pas ça l'énergie, c'est pas la secousse. C'est comme la force de travail, vous savez, dans Marx, même on croit que c'est la sueur. Pour... Ça n'empêche pas que d'aller à la mine, c'est pas marrant, mais c'est pas la sueur la force de travail. Je suis désolé. La force de travail, c'est un terme important dans le calcul que Marx fait pour arriver à cerner la plus-value. C'est donc le même travail que nous, ce que nous faisons là. Bon, il faudrait... Vous voyez, il y a une épistémologie, une éducation scientifique à faire à partir de Lacan et de ce brave Freud qui avait une épistémologie beaucoup plus simpliste que celle de son temps. Lacan, il est magnifique, magnifique là-dessus. Il faut écrire un petit traité de doctrine de la science lacanienne. Milner, dans l'œuvre claire, c'est tout raté parce qu'il s'est rangé du côté de Popper. Alors voilà, Chomsky, Popper, et hop, on y va dans l'empirisme, et du coup, il a oublié de lire un texte de Coiré, qui est un texte magnifique de Coiré, que je vous conseille. Je l'ai commenté il y a plusieurs années, mais je vous donne le titre, lisez ça, c'est dans Gallimard, dans les essais d'histoire de la pensée philosophique. C'est un texte qui n'est pas très long, aussi magnifique que le monde de l'à-peu-près, l'univers de la précision, ça marche avec, quand il parle des objets techniques. Coiré, sûrement, il s'adresse à l'histoire des sciences, pas seulement à la philosophie des sciences. Mais vous voyez, il écrit quand même un texte qui s'appelle « De l'influence des doctrines philosophiques sur les théories scientifiques ». Et il dit « Il n'y a pas de doute, l'expérimentation, elle a une importance. Mais jamais, jamais personne n'aura jamais l'idée de construire un appareil pour faire une expérience empirique, hein, de laboratoire, s'il n'a pas déjà un discours pour poser et formuler les questions. Pour fabriquer même l'appareil qui va lui permettre de faire des expériences. Pour interroger, il faut un discours avant, il faut un discours après. Ce qui est intéressant dans la manœuvre, c'est que le discours, justement, entre avant, quand on se pose des questions, et puis qu'après, quand on trouve des réponses positives ou négatives, et bien, il s'est passé quelque chose. Mais c'est pas l'expérience, c'est pas l'observation qui serait lié à notre regard d'une pureté, voyez-vous, de notre intelligence, d'une transparence, qui ferait que nous aurions comme ça, nous verrions apparaître la vérité qui sort de... Non, mais nous, qui se moquons. Bon, il faut Heisenberg pour vous expliquer qu'à un moment donné, quand on s'approche trop de l'objet, quand la photographie est du même ordre que le phénomène qu'on veut observer, ben, ça crée des interférences indéterminées. Il appelle ça le principe d'indéterminisme. Le principe d'incertitude d'Heisenberg. Oui, d'Heisenberg. Bon, c'est Heisenberg, malgré qu'il soit resté nationaliste allemand, c'est quand même un grand savant. Hein. C'est pas problème, vous avez qu'à lire la question avec Einstein. Ça, c'est des choses intéressantes. Bon, donc, c'est pas comme Gelsen, qui était aussi le logicien, mais il était aussi nationaliste. Il est mort à cause de ça. Hein. Il fallait être allemand restant à se faire tuer.
Mais pas aussi, hein.
Bon, mais c'est peut-être bien, oui. Il y en a quelques-uns comme ça. Donc, notre problème n'est pas de porter ces jugements-là. C'est pas non plus de les occulter, c'est de dire que ça existe, mais qu'il y a des grands esprits qui peuvent. C'est comme Céline, le plus grand styliste de la langue française avec Proust au XXe siècle. Il fait une faute politique énorme, même un crime. C'est-à-dire, il publie, déjà, il écrit. Bon, il peut l'écrire, après tout, Bagatelle pour un massacre, mais il aurait dû le garder dans son cartable, parce que un tissu de mauvaises informations prises sur les quais, comme ça, de propagande, pour faire un pamphlet en langue française, pamphlet magnifique, c'est une canaillerie, c'est une crapulerie, c'est une erreur, une faute. Bon. Mais nous, dans la Tchigaï, on n'est pas le tribunal, c'est pas à nous de porter le jugement. Ça emmerde les Français, vous savez pourquoi? Parce qu'en France, si vous écrivez bien, vous êtes quelqu'un de bien. Vous voyez? Moi, c'est même pour ça que j'ai fait des maths, parce que j'écrivais pas bien, alors pour essayer d'être un peu bien, auprès des professeurs, je faisais des mathématiques. Et j'ai réussi comme ça à passer entre les gouttes, comme ça, mais c'est-à-dire qu'il n'y a que la psychanalyse qui m'a permis de me poser la question, pourquoi, quelle est ma relation à la langue qui fait, quelle est l'histoire de ma famille aussi, mon Oedipe qui fait que je suis dans une position vis-à-vis de la parole, de l'écriture, de la lecture, qui est celle qui me fait du tort, et puis de l'autre côté, qui fait ma satisfaction. Nous avons tous, comme ça, des choses préférées. Il faut commencer d'ailleurs par étudier ce qu'on fait le mieux, ce qui est favorable. Et ensuite, il faut faire des exercices de style pour élargir un peu, parce que tout le monde, moi je ne veux pas vous raconter ma clinique, parce que je ne parle pas de mes patients, mais je connais des histoires mais absolument magnifiques, pathétiques, qui n'intéressent absolument pas la psychologie. C'est des affaires de lettres, d'écrits, de paroles, de lecture, voyez-vous. Ça, tout le monde va à l'école pour apprendre quoi? À occulter ce qu'on ne sait pas faire, qui est un iceberg, et puis montrer un dixième qu'on peut montrer par faveur, comme ça, pour être valorisé. Voyez. Bon, alors, c'est pour ça que je trouve que la sublimation, ça existe depuis la nuit des temps, hein, le mec qui arrive à réussir en ayant, il jette son objet à la poubelle, ça fait un tour dans l'autre, et puis ça lui revient d'une manière bénéfique. Alors hop, il est plus fou. Ça rompt l'objet, justement. Ça rompt le lien de la répétition, la sublimation. Il y a des psychanalystes, enfin, il y a des Jungiens qui croient que c'est ça la psychanalyse. Hein. Si le patient réussit à sublimer, il est guéri. Bon. Mais on n'a pas attendu la psychanalyse pour ça. Mais le problème, c'est que la sublimation, c'est absolument l'injustice, parce que vous êtes. Il y a des milliers de petits gars et petites filles qui, après, vont faire des pointes, vont jouer du violon, et puis il y a un premier violon. Et puis, si vous jouez du violon et que vous ne voulez pas être premier violon, il ne faut mieux pas jouer de violon, parce que moi, j'ai toujours conseillé que quand vous faites quelque chose, vous allez vous le faire le mieux possible, c'est-à-dire être le meilleur. Pas pour casser la gueule aux autres, mais parce que c'est ça qui est marrant. Alors non, il faut marcher sur les pieds des autres et... Hein, on va rejeter du vitriol pour être le meilleur. Non, ça ne va pas. La sublimation, c'est vraiment absolument injuste. Ben, la sublimation, c'est le sort de notre espèce sur la planète. Regardez, hein, vous naissez ici, regardez-moi, j'ai pas connu de guerre, 48, tout de suite après. Jusqu'à maintenant, ils ont fait péter quelques bombes rue d'Assas et dans le RER. J'étais pas là, de toute façon, moi, à mon avis, les politiques avaient fait des erreurs graves. Et ils en font encore là. Bon. Qu'est-ce que vous voulez? C'est quand même d'une injustice extraordinaire. Alors on peut dire que c'est la chance et tout ça, mais quand même, c'est quand même réglé comme du papier à musique. Moi je vis en Argentine actuellement. Je veux dire, c'est une honte. Je veux dire, les mecs, il y a des gens hyper riches, c'est l'Eldorado, l'Amérique du Sud, ça existe toujours. Il y a des quartiers, des bagnoles. Ils ont tous des verres fumés tellement ils ont honte d'avoir une voiture. Ils disent que c'est pour le soleil. C'est comme une lunette noire, c'est les fachos qui mettent ça pour pas qu'on les reconnaisse. Bon. Donc, vous voyez le truc, ils sont absolument planqués, bourrés de pognon, et puis il y en a d'autres, c'est une misère, et puis il y a plein de la classe moyenne là, qui tombe dans la misère. Et la première chose qu'ils font quand ils sont à cette classe moyenne, c'est qu'ils rêvent d'être de l'autre côté, quoi, ceux qui sont les plus riches. Bon. Même les gens de gauche. L'Argentine, c'est quelque chose, hein. C'est un pays mafieux, tout ça. Mais on danse le tango. Quand ils ont vu arriver Lacan avec Catherine Millot, ils ont dit, non, ça, la psychanalyse, c'est pour nous, tango. On connaît, on est les champions du monde, alors, pop, pop, ils ont tous cru ça, vous voyez. Il y en a, c'est pour ça que la topologie, ça ne les intéresse pas. Ils pensent que la psychanalyse argentine, ça marche tout seul parce que c'est leur essence. Alors, c'est comme ça. Génial. Bon. Moi, je leur dis que c'est pas ça du tout, du tout, du tout. Ben, il y en a qui m'aiment bien. Donc, vous voyez, j'ai pas tort d'insister. Alors voilà, grandi, c'est ces deux-là. Et ben, ces deux-là, vous pouvez les faire cohabiter que dans ce diagramme-là. Pas dans les pastilles en plastoc. Alors, regardez, je vous montre. Ben, je vais faire bêta et phi. Je vais écrire bêta. Regardez, c'est pas difficile d'écrire déjà les domaines le domaine de deux de ces machins-là dans ce diagramme, avec ce diagramme. Alors il faut prendre l'habitude de dessiner le diagramme, il faut le dessiner beaucoup hein, sur la feuille de sur une feuille de papier ou le tableau.
C'est comme une écriture, c'est un truc pour penser. C'est comme disait Lévi-Strauss avec la pensée sauvage. Hein. Les animaux et les plantes, c'est plus bon à manger, c'est bon à penser.
Ça, c'est bon à penser. Alors, il y a le domaine, il est constitué par le fait que les pastilles A et A', c'est des trous dans les disques S et grand A. Vous voyez ? Donc, si vous avez grand A ici, petit A', j'expliquerai ça au mois de juin. En quoi ça, c'est l'aliénation ? C'est un peu plus... Il faut rentrer dans les considérations à la Gödel. C'est pas compliqué, mais c'est un coup à prendre, c'est assez marrant. C'est pas immédiat. Voilà, ça, c'est l'aliénation. Vous voyez ? Il y a une partie perdue qui est en dehors du disque. Hein ? Ça veut dire que... ce que je suis en train de dire, c'est que, vous voyez, si j'ai S ici et A là, petit a, hein, et bien, justement, ce disque, c'est pas ça. Ce disque troué, c'est ça. Vous voyez ? Cette partie-là, elle n'existe pas. C'est ça que je raye ici. Et pour A', pareil de l'autre côté. Ce qui fait que voilà, ça, c'est le domaine des zéros. Le diagramme des zéros. Bon. Alors là, je vais dessiner des bêta. Et là, je vais dessiner des phi. Pour mettre les deux ensemble sur le même diagramme et pour obtenir mon schéma I qui est là. Ça, c'est le schéma I de Lacan. Pourquoi le schéma I de Lacan, c'est les deux ? Parce que dans le schéma I de Lacan, il y a les deux trous P0 et Φ0. Ça va être ces deux trous ici. Ça, c'est les deux trous. Ça, c'est P0 et ça, c'est Φ0. C'est une nouvelle lecture. Hein, parce que j'ai déjà fait toute la construction des schémas à partir des schémas de la lettre 52 de Freud dans ce livre. Hein. C'est dans la conclusion de ce livre. Tout le bouquin est fait pour étudier les surfaces. C'est top, ça. Et introuvable aujourd'hui. Hein, c'est épuisé chez les éditeurs. Il faut aller l'acheter ou sur les quais, ou dans les poubelles. Ah oui, les livres, vous savez, je ne sais pas où on va les retrouver. Il y en a eu 1000. Hein, on en a imprimé 1000, ils sont tous vendus. S1, il a été vendu en 5 ans, et celui-là, ils sont tous vendus depuis 2-3 ans seulement. Ça a mis plus de temps. Bon, ça intéresse moins. Et alors, Neuil, on en a encore 200, je crois. Non, bientôt, il n'y en aura plus. Je ne dis pas ça pour vous précipiter. Moi, ça ne me dérange pas, et ça ne fait pas beaucoup de caisses, 200. Bon. Alors, vous voyez, toute la conclusion est finie avec le schéma I sur la bande de Mobius. Donc tout le truc, c'est pour expliquer qu'est-ce que c'est que ces droites infinies si on les ferme selon l'idée de désarme, tel que Lacan utilise désarme. Lui, ici, désarme, c'est pas seulement désarme, puisque c'est aussi les mathématiciens russes des années 30, puisque c'est la compactification. C'est un espace localement compact, on rajoute une lettre et hop, ça devient compact. Et les mecs qui ont découvert ce théorème, ils étaient épatés. Ils se disaient, mais comme c'est formidable. Il suffit d'ajouter une lettre. Bon, il faut lui donner un petit axiome, un petit coup de main quand même pour la préciser, mais c'est une lettre. C'est quelque chose qu'on ajoute, et hop, la droite infinie devient achevée, devient compacte. Vous pouvez même trouver ça dans vos bâtis. Hein. Bon, donc, Lacan, lui, il se réfère plutôt à des arts, parce que c'est un côté exotique, c'est plus ancien. Puis des arts, c'est quand même un mec qui écrit des choses. Vachement bien, ça, je l'ai pris. Vous savez que Descartes, il a répondu à ça. Il avait envoyé le brouillon project à Descartes. Comme quoi, vous voyez, c'est pas, on peut avoir deux styles de géométrie complètement différents et pas être obligé de faire la guerre. Il envoie son brouillon project et il y a une très belle lettre. Tatron l'a publiée, la lettre de Descartes à Desargues. Parce que Descartes, il lui dit, écoutez, votre travail est formidable, c'est très bon, c'est très beau, c'est très... Mais alors, si je peux me permettre de vous donner un conseil, ou bien vous voulez, vous employez un vocabulaire très spécifique à votre style, vous écrivez d'une manière qui va être incompréhensible pour les géomètres courants. Bon. Alors, si vous voulez avoir du succès auprès de tout le monde, il faudrait écrire autrement votre traité. Mais si vous voulez maintenir, vous n'êtes pas intéressé par le fait d'avoir un grand public, eh ben, à ce moment-là, conservez votre façon d'écrire. C'est parce que c'est là, il parle de nœuds, d'arbres, de rouleaux. Il y a plein de mots que vous retrouvez dans Lacan, si vous lisez le brouillon projet de Desargues. Hein. Lacan, il a gratté le papier, il connaît bien son Desargues. Pas seulement le théorème de dualité, qui est très beau, très intéressant. Donc tout ça pour vous dire, comment fermer ça? Si vous fermez ça, vous apercevez que les lettres A à Phim, qui sont dans les écrits, hein, dans les écrits, j'ai reproduit la figure qui est dans les écrits, hein, les points, les lettres A à Phim, elles sont dans le blanc là autour. Là, il y a deux trous, c'est écrit dans le texte, c'est expliqué, il y a deux trous, P0, Phi0, forclusion du nom du père, déformation du schéma R en schéma I, comme une caricature de la réalité. Voilà le texte de Lacan. Bon, mais il faut réfléchir à tout ça. Il ne faut pas s'arrêter là, parce que si vous rentrez un peu dans le paradigme, dans le truc, vous allez voir. Alors, pour vous aider, je vais mettre des couleurs supplémentaires qui ne sont pas... Alors maintenant, j'ajoute des couleurs qui ne sont pas dans les écrits. Donc ici, c'est S. Vous voyez, il est là le vert du rond A, de mon rond grand A. Hein, vous verrez que le grand A, il est dans la zone S du schéma R. Hein, voilà. Donc le trou P0, il a la même couleur que le tour du tableau, là. Le vide autour. Et là, vous avez du rouge, c'est la zone I. Alors voilà, ça peut vous donner l'idée, comme ça, de commencer à comparer. Vous voyez ? Bon alors, qu'est-ce que je fais ? Ben, je vous ferme le schéma comme c'est fait dans l'étoffe, en bleu. Il faut fermer les blanches, les branches infinies. Vous voyez, des asymptotes, c'est l'idée hein, des coniques de Desargues. Hein. J'ai expliqué ça dans un texte qui s'appelle la DI, dans le catalogue des dessins que j'ai mis en vente. Il y a ces dessins hein, sur les paraboles et les hyperboles qui se ferment toutes en ellipse. Là, on va retrouver un cercle à la place. Voilà, vous voyez, je prolonge mes traits comme ça. Et voilà, je fais ici une torsion. Et je viens ici. Bon. L'autre trait bleu, je le maintiens là. Et l'autre trait bleu qui passe par elle, ici. Vous voyez ? Et là, ça passe dans le pli. Alors attendez, qu'est-ce que j'ai fait comme défis ? Non, ça marche, très bien. Ici, c'est en pointillé, comme ça. Parce que j'ai le nez sur le tableau, alors c'est un peu embêtant. Donc je mets un trait blanc là-haut, je mets un trait blanc pour marquer le pli. C'est un pli comme le pli d'un ruban, vous voyez. Voilà. Bon. Ici, j'ai les pointillés parce que ça passe en dessous. Et puis, toutes ces lignes, elles réapparaissent là. Les trois lignes qui sont là, plus la dernière qui est ici. Il y a le bord là. Une, deux, trois. Alors, ça ne va pas plus loin qu'ici. Voilà. Mais j'en ai quatre. C'est bon. Alors, ici, je viens ici. Ici, je viens là, vous voyez, en petit M, et l'autre aussi, dans l'autre côté du petit M. Voilà. Et je vous prolonge les hachures que j'ai mis de la réalité psychique. Ça, c'est les hachures. Alors, vous voyez que le rouge et le vert, les pastilles rouges et vertes, elles vont se trouver adossées l'une contre l'autre. Regardez, ici, il y a les hachures. Ici, c'est des hachures. Est-ce que ça ne vous plaît pas de voir que le vert et le rouge, ils vont se retrouver être une pastille sphérique unique qui est verte d'un côté et rouge de l'autre. Regardez. Évidemment, là, j'ai un peu serré les deux lignes. Vous voyez, je n'ai pas trop les choses pour vous faciliter la tâche. Pour donner, je ne suis pas bon. Pourtant, il n'y a pas de trompe-l'œil, hein, ce n'est pas du écher. Hein. C'est juste que vous pouvez faire ça avec du papier ou du tissu. Hein. Et vous voyez que quand vous passez le pli ici, vous voyez l'autre côté de la pastille sphérique, et que l'hyperbole, c'est un bord, ça devient une ellipse en géométrie métrique, mais en topologie, c'est plus une ellipse, c'est un rond, c'est un cercle. C'est un cercle déformé, mais pas selon les lois de la rotation du plan par rapport au cône. Hein. Voilà. Donc toutes les coniques sont des ellipses pour des arbres. Donc vous voyez bien que qu'est-ce que c'est que ce truc vert et rouge? Ce truc vert et rouge, c'est un disque comme ça, qui a été cassé, plié, comme ça. Voyez, avec un bord, avec un pli rajouté ici. Ici, vous aviez deux trous. Vous avez deux trous, ici, vous en avez deux. Bon. Et là, vous, quand c'est mis à plat, vous voyez qu'une face, par exemple la face rouge. Vous voyez la face rouge ici. Bon, là, ici, vous avez la face rouge qui n'a pas bougé. Mais les dessins dans les coffres, hein, c'est quasiment une écriture. Hein, c'est une algèbre. C'est une algèbre, c'est une écriture des surfaces, c'est pas une représentation des surfaces. C'est un truc, on ne sait pas si c'est une représentation ou une écriture. C'est ça qui est marrant. C'est pour ça que moi je me range dans l'art moderne. Je fais partie des mathématiciens modernes, des géomètres modernes. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est comme dit Picasso quand il fait un truc, vous savez, il dit au photographe, allumez votre appareil de photo juste une seconde, et lui il prend une lampe et puis il fait le temps de la photo. On développe la photo, le type lui dit oh, quel geste, enfin, c'est quasiment une calligraphie avec la lumière dans l'air. Ça. Picasso, ce qui l'intéresse, il dit oui, mais c'est un saint. Et oui, parce que c'est aussi un saint. Vous voyez, Picasso, c'est un peintre figuratif. Hein. Vous voyez pas, c'est pas Kandinsky, hein, Picasso. C'est un figuratif. Bon, vous voyez ici, la pastille sphérique pliée, elle est là. Hein. Et il y a deux trous dedans. Bon, donc. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il va falloir se faire dans ces diagrammes-là, dans ces schémas d'abord, dans ces figures de géométrie, et puis ensuite dans le diagramme, comment est-ce qu'on va faire pour que les deux ronds soient un seul rond, mais dos à dos, avec deux trous dans le même rond. Ben, c'est pas compliqué, regardez, je vous le fais à l'avance, parce que je ne sais pas combien de temps je vais avoir pour vous montrer tout le reste. Regardez, il suffit, mon diagramme, regardez, il suffit que je fasse ça. Je rajoute ici une bretelle avec un pli. Justement. Vous voyez, ici, je vais mettre un pli. Voilà, comme ça. Et si je rajoute ça, ici, c'est rouge. Mais c'est diagrammatique, ça, c'est pas physique. Et pourtant, on va le retrouver en physique parce que ça va donner une bande de Möbius. Ça peut se construire comme un plan projectif troué. Et on peut le construire même sur un cross-cap, si on immerge le plan projectif. Vous voyez, voilà. Voilà. Le schéma X, c'est quelque chose comme ça. Il faut modifier un peu le domaine. Ça ne modifie pas du tout le domaine. Bon. Et alors, ça va être ces deux domaines-là, des alpha et des bêta, qu'on va mettre sur ce dessin. Dans ce dessin, on va mettre les deux diagrammes, les deux domaines qui sont ici. Quel est le domaine de delta bêta? Alors, je vous dis, comment on trouve le domaine dans le diagramme? C'est très simple, c'est un jeu d'enfant, mais enfin, ça peut vous demander un peu de temps pour y arriver. Ici, vous avez cinq zones. Il y a la zone extérieure, 1, 2, 3, 4, et la zone extérieure. Hein. Il y a deux zones, A à l'intérieur de S, et puis S en dehors de A. A' et A, ça c'est les quatre cercles, c'est ce qui me fait faire un diagramme comme ça. Et ce que je retiens de ces quatre cercles, là j'ai toutes les zones, j'en ai retiré parce que les A et A' sont à l'intérieur du disque. Et qu'est-ce que je dois retirer du diagramme général du domaine de mon problème, qui est le problème physique des trous à l'intérieur des disques? C'est ça le domaine des zéros. Pour avoir alpha, il n'y a pas d'intersection, et il n'y a pas de zone colorée à l'intérieur des intersections, et il n'y a pas de trou dans l'intersection. Par contre, il y a ces deux trous-là et ces deux zones-là. Donc, dans alpha, je dois retirer toute l'intersection. Vous voyez, je dois garder les deux trous. Regardez, si je retire toute l'intersection, si je masque l'intersection, si je fais une éclipse de l'intersection, je vais avoir une zone, deux zones, trois zones, quatre zones, cinq zones. Ce sera l'étape alpha. Bêta, je vous le dessine. Regardez, bêta, je rajoute une zone intermédiaire, l'intersection entre rouge et vert, qui se superpose en bleu. Ça veut dire que la zone bleue, elle est apparente, elle apparaît dans bêta. Cette zone, il ne faut pas la masquer. Celle qui était dans alpha, on ne va pas les masquer non plus. Donc on garde la verte, ici. Voilà le domaine, voilà ce qu'on va pouvoir écrire en algèbre de Boole. La petite mathématique qu'on va faire,
ça va être sur ce diagramme, par exemple, d'écrire les relations logiques. Ensuite, on écrira les relations entre... Il faut chercher une expression d'intersection qui soit différente de l'intersection classique. Ici, l'intersection classique, c'est la zone bleue. Hein, c'est S inter A. Alors, S inter A, en termes ici, c'est tout ça. Mais regardez, ici, du fait que je n'ai pas d'autre zone, je raye aussi ça. Je vais prendre une autre couleur, peut-être, pour que vous appréciez mieux. Mais le domaine des bêta, c'est ça. Il y a combien de zones? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a combien de zones ici? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon. J'ai allumé l'intersection entre alpha et bêta, j'ai allumé l'intersection. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il fallait rayer toute l'intersection pour avoir alpha. Bon. Qu'est-ce que c'est que cette zone-là? Cette zone-là, là, il y a un sacré déficit. Regardez, il n'y a que trois zones. 1, 2, 3. Quelles sont les zones qui font rayer? Quelles sont celles qu'il faut garder? Ben, il faut garder l'intersection, puisqu'elle occupe beaucoup de place. Et elle occupe tellement de place que dans l'étape phi, il n'y a même plus la zone ici qui est rouge, il faut la rayer, et la zone qui est ici verte, il faut la rayer. Bon. Et le trou qui est ici en delta, le trou qui est rouge ici, il faut le rayer, il est fermé, et le trou ici, il faut le rayer aussi. Il faut rayer le trou de coloré, mais le trou vide aussi qui apparaît dans bêta, il faut rayer ça. Bon, voilà, ça c'est le diagramme de phi, c'est le diagramme de phi, parce qu'il y a trois zones qui ne sont pas éteintes. Qui ne sont pas occultées, il n'y a pas d'éclipse. Hein, n'oubliez pas que la fonction addition, soustraction de la chaîne de groupe, ça va être l'éclipse. Hein. Il faut ajouter ou retrancher. Bon, c'est la même chose. Ici c'est l'extérieur, ici c'est l'intersection, ici c'est reste le trou dans l'intersection. Donc voilà, si vous faites ça plus ça, vous allez obtenir le diagramme du schéma I de Lacan. Bon. Le diagramme du schéma R, ce sera, sur cette figure, ce sera celui-là, ce sera le diagramme. Ça, ce sera celui-ci. Hein. Le schéma R, c'est celui-ci. Là, c'est delta. Delta, ce sera le schéma R. A et A' dans le schéma R, regardez dans le schéma R, Lacan, il a dû étudier ça pendant tout le temps de la guerre. Hein. Il a dit qu'il ne publierait rien tant que les Allemands seraient à Paris.